Mémoire vive,
présentée par Stéphane Bou
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. En 1979, Esther Offenberg n'est pas encore la productrice et la réalisatrice qu'elle deviendra plus tard. Rien ne l'a destinée au cinéma quand elle décide alors, avec Myriam Abramovitz, de se lancer dans la fabrication d'un film en vue de raconter l'action des hommes et des femmes qui, en Belgique, se sont organisés pendant la guerre pour cacher et subvenir aux besoins d'enfants juifs. 4000 enfants furent ainsi sauvés grâce à la volonté, au courage d'un réseau qui s'est mis en place avec une volonté sans faille à partir de 1942. Donc comme si c'était hier, Esther Offenberg et Myriam Abramovitz font parler les résistants, les justes, les enfants cachés devenus des adultes dans un film essentiellement tissé par les souvenirs de ses protagonistes. Ce film sera bientôt disponible en DVD, sur lequel figurera un autre film d'Esther Offenberg, Récit de Sam, réalisé en 2009, mais à partir d'un entretien filmé en 1989 de la cinéaste avec son père, rescapé du ghetto de Varsovie. Bonjour Esther Offenberg.
Bonjour.
Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer ces deux films. On va évidemment commencer par le premier, qui est le plus long. Hein. Récit de Sam est un film plus court. J'imagine qu'il est très important à vos yeux, mais il est un peu plus court. Je voudrais qu'on commence évidemment avec Comme si c'était hier. On est à la fin des années 70. On est avant des grands films comme évidemment Shoah de Lanzmann. Comment, à l'époque, vous décidez d'entreprendre ce film précisément, j'allais dire en autodidacte, si j'ai bien compris, et presque dans des conditions amateurs. Et c'est un film qui est resté, hein, mais qui est fait comme ça au début, à partir d'un désir très... très personnel et avec très peu de moyens.
En fait, la rencontre avec Myriam Abramovitch a été essentielle parce que sa famille a été sauvée en Belgique. Et elle préparait en fait un livre. Et moi, j'avais des contacts dans le milieu du cinéma, c'est-à-dire j'étais amie avec Sammy Slingerbaum, qui a fait Bruxelles Transit, et surtout Boris Lehmann, qui m'ont emmenée sur des tournages. Donc j'étais un tout petit peu au fait du documentaire par ce biais-là. Mais la découverte de l'histoire des justes m'a vraiment beaucoup frappée, parce que c'est quelque chose dont on parlait peu dans ma famille, alors que mon père a également été sauvé, mais dans des conditions particulièrement difficiles à Varsovie. Et j'ai accompagné Myriam pour rencontrer le père Kapar. C'était la première rencontre que j'ai faite. Et là,
mais au début, c'était pas un projet de film à ce moment-là.
Non, j'ai juste accompagné pour voir. Et j'étais assez impressionnée justement par la modestie et par le naturel du père Kapar, qui avait pris des risques énormes pour sauver et pour cacher dans son institution des enfants juifs qu'il a fait passer pour débiles. Et puis, de fil en aiguille, une amie nous a dit « Mais pourquoi vous ne feriez pas un film ?» Regarder, faire un film. Mais moi, finalement, je pense que c'était un rêve de faire du cinéma, mais je ne le savais même pas. Et donc, j'ai demandé à Boris Lehmann comment on fait un film. Et il m'a fait le budget, il m'a expliqué comment il fallait faire. Et puis, il m'a mis en contact. Enfin, voilà, ça s'est fait quand même en contact avec le milieu professionnel. C'est-à-dire que à partir du moment où on a décidé de faire le film, on a travaillé d'arrache-pied pour construire quelque chose. Et au départ, on voulait faire vraiment sur, en général, le sauvetage des Juifs en Belgique. Mais ça s'est recentré sur la question des enfants. Parce que finalement, en travaillant et en rencontrant les personnes comme Henri Sébert, qui a joué un rôle fondamental, c'est la spécificité de cette guerre. On s'est attaqué aux enfants, qu'on a déporté les enfants. Et cette spécificité nous a semblé vraiment très importante. Voilà.
On reviendra sur ces personnages comme Maurice Hébert, qui est effectivement un personnage absolument lumineux, magnifique, qu'on voit dans votre film. Et je crois d'ailleurs que c'est qu'il meurt quelques temps après la fin de ce film qu'il ne verra jamais.
Hein. Exactement.
Mais c'est un personnage évidemment
merveilleux,
glorieux,
ouais,
et qui est dans beaucoup de mémoires. Hein,
tout évidemment. À fait.
Je voudrais qu'on revienne à ce moment. Donc là, on est en quelle année? Fin des années
79.
79. C'est un film que vous mettez combien de temps à faire à ce moment-là?
On a mis
avec
deux ans.
Petits moyens, en fait. C'est
oui.
Ça qu'il faut.
Alors, si vous voulez que je raconte l'histoire des moyens.
Mais c'est intéressant parce que j'ai le sentiment que vous trouvez votre sujet en le faisant petit à petit, en fait, il y a quelque chose comme ça, en fait. On sent que vous qu'on suit votre enquête un petit peu en suivant le film. Vous avez le droit de dire que j'ai tort.
Ça. Non, c'est toujours comme ça en partie, puisque. Mais tout de même, on avait fait un planning pour grouper les tournages. Donc ça s'est pas fait comme ça, étalé au fur et à mesure. Non.
Oui, faut rappeler qu'on est à la fin des années 70, c'est de la pellicule.
C'est de la pellicule.
Ça coûte pas la même chose. On peut pas tourner ad libitum comme aujourd'hui en vidéo.
Exactement. Alors je profite pour faire un lien avec mon père, puisque parce que on n'avait pas un rond. Et moi, je faisais des petits boulots à Bruxelles, et j'ai emprunté à mon père, enfin évidemment, on lui a jamais rendu, mais de quoi acheter la pellicule. C'était pas énorme, enfin, ça représentait quand même une mise de départ qui nous a permis, et le reste, on a trouvé une équipe grâce à la confiance qui s'est tissée autour de nous, à la motivation. Ils ont senti un tel désir de témoigner. Que ça s'est communiqué, en fait. Et du coup, j'ai joué un peu le rôle de productrice, mais je ne savais même pas ce que c'était la production. Pour moi, c'était un désir de film, point barre. Donc, on a réuni une équipe, et puis je leur ai dit, écoutez, vous serez payés, mais quand, je ne sais pas. Et en fait, donc, on a trouvé l'argent après, mais en n'ayant plus tourné. Donc mon père, je dois lui rendre cet hommage, il a permis finalement à ce film de démarrer.
D'accord. Alors maintenant, rentrons dans la chair du film, c'est-à-dire les personnages, les témoins et le sujet même. Vous dites que vous vous concentrez sur les enfants. Et effectivement, moi je vois notamment toute la première partie comme le récit de la mise en place, j'allais dire presque très rapide, presque naturellement d'un réseau. Ça raconte ça. Autour de quelques personnages, quelques institutions, Maurice Hébert, le CDJ, Comité de Défense Juive, l'Organisation Nationale de l'Éducation,
Neufjean.
Voilà. Des hommes de bonne volonté à ce moment-là, qui presque très rapidement prennent conscience de quelque chose et vont mettre en forme un réseau.
Oui, alors évidemment...
On a le sentiment d'ailleurs, excusez-moi, juste... Oui. On a le sentiment, parce que quand on pense à la France, on a l'impression que les réseaux ont des ramifications, qu'on ne pourrait pas nommer toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé. Là, on a l'impression que c'est un tout petit groupe d'hommes et de femmes, quand on voit votre film.
Je vais essayer de dire les choses dans l'ordre, parce qu'il y a la question politique. Qui a formé ces réseaux. Il y avait évidemment les gens qui étaient armés pour ça, c'était les communistes, hein, les gens qui... Mais ils ont réussi à s'allier à d'autres. Donc c'était un regroupement, en fait, de volonté de résister. Et donc, c'était quand même des Juifs qui étaient moteurs au départ. Et qui ont mobilisé les institutions qui étaient partantes aussi, puisque même la reine Élisabeth a été en contact avec le père Capard, par exemple. Et donc, on savait que, c'est pas, contrairement à la France, il n'y avait pas de gouvernement qui collaborait. Enfin, on pourrait épiloguer là-dessus, mais disons que on savait que c'est pas... donc, il y avait... C'était pas du tout la même situation qu'en France.
Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il y avait des institutions, il y avait des réseaux de résistance? Il y avait, on pourrait dire, un monde constitué, mais à côté de ça, ou avec ça, avec ces gens-là, à un moment donné, il y a deux, trois personnes qui se disent « faut s'occuper des enfants ». C'est ça, quand j'appelais réseau, c'est ça que je voulais dire. Ce réseau-là, ce réseau de Maurice Hébert, qui se disent, presque à deux, trois personnes, « il faut qu'on fasse quelque chose avec les enfants ».
Tout à fait.
Voilà, c'est ce petit réseau-là, à l'intérieur, effectivement, de... Tout ce monde ramifié.
Alors, ce réseau-là, effectivement, c'était Gert Jospa et sa femme, Yvonne Jospa, qui ont été très, très moteurs. Et puis, ils ont recruté. Donc, ça a été tout un travail. Et souvent, et donc, Maurice Hébert était une recrue. Parce qu'il était à la JB, il était dans, parmi les représentants
des, là, il faut dire ce que c'est que la JB.
L'Association des Juifs de Belgique, donc qui était un intermédiaire, enfin si vous voulez.
Non, qui est l'association, disons, officielle, voilà. Institutionnelle, qui existe au grand jour et où il y a des liens avec l'occupant.
Exactement, voilà. C'est comme en France, hein, c'était l'UGIF.
Maurice Hébert, ouais. Il est à la JB, voilà. Mais il est à la CDJ, qui est une organisation
il a joué, tout à fait, il a joué double jeu, parce voilà. Que du coup, il pouvait avoir les informations, savoir des tas de choses et servir de couverture. Donc, ils ont vraiment... Enfin, pour moi, quand je revois le film, et je l'ai présenté en Allemagne il n'y a pas longtemps, les gens ont trouvé que c'était presque un manuel de résistance. Parce que c'est tout comment on établit un réseau, comment on cloisonne. Et d'ailleurs, il y a des choses...
Les gens.
Voilà. Il y a un personnage qui a joué un rôle clé aussi, parce que comment... on ne pouvait pas rentrer dans trop de détails techniques. Mais il y a quand même l'explication... des doubles cahiers avec le faux nom, le vrai nom, pour pouvoir retrouver les enfants. Ils avaient la conscience ensuite que non seulement il fallait les cacher, garder leurs traces, mais pouvoir les rendre à leur famille après. Donc, il fallait quand même, c'était pas juste sans les placer puis se dire advienne que pourra. Non. Donc, et avoir des cachettes secrètes pour tous ces documents, et ça a été, tout est conservé. Et Esta Hébert a joué un rôle fondamental. Et ça, j'ai encore des rushs, justement. Enfin, on n'a pas pu tout mettre dans le film, mais le couple des Hébert a été vraiment très important. Oui.
Il y a un personnage, vous l'avez évoqué en quelques mots tout à l'heure, qui est étonnant dans le film, qui est le père Capa. Donc, il y a un réseau catholique. Oui. Il y a des réseaux communistes et catholiques, on pourrait dire, principalement. Est-ce que c'est... Je vous pose la question. Hein. J'ai pas... Parce que là, j'ai...
Oui, ouais. Non. Au niveau de l'organisation, oui, il y a un regroupement de gens d'horizons. Il y a, par exemple, la JOC, hein, c'est comme en France, la jeunesse ouvrière chrétienne, qui ont une tendance toujours de gauche, assez, dont en France, ils ont résisté aussi, hein, il y a eu ces réseaux-là. Et puis, il y a eu, dans l'organisation, c'était des réseaux juifs, mais qui étaient, il y avait parmi eux beaucoup de gens qui soit étaient communistes à l'époque, soit le sont devenus après. Et nous, on n'a pas voulu rentrer du tout dans les... Il y avait encore en 80, les querelles de chapelle, disons, étaient encore assez chaudes. Et on nous a même dit que c'était un film qui faisait l'apologie du communisme. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça, parce que effectivement, dans les personnages, il y en a qui ont adhéré, comme beaucoup après la guerre, au Parti des Fusils. Enfin voilà, c'était cet esprit-là. Mais en réalité, nous, on n'est pas du tout rentré.
Non, vous rentrez pas effectivement dans ces détails-là.
Dans cette querelle politique qui existait encore en 80, c'était 40 ans après, donc ces choses étaient encore à vif.
On ne va pas rentrer évidemment dans les appartenances idéologiques des uns et des autres, la question effectivement de l'engagement social des catholiques que vous avez pu filmer, l'engagement communiste, mais parce que en fait la question qui vous intéresse à un moment donné, c'est le rapport de chacun des justes qu'on rencontre dans le film par rapport à son propre sentiment de devoir, sa propre conscience, indépendamment évidemment de tout motif politique, on pourrait dire. À un moment donné, c'est ça la question que vous posez. Pourquoi ?
Tout à fait. Et d'ailleurs, pour moi,
ce qui est très beau d'ailleurs, c'est qu'ils ne savent pas comment y répondre à cette question.
Tout à fait. C'était une question fondamentale. Et parce que je crois que j'avais des espèces de schémas en tête sur la bonté qui se verrait sur le visage, et puis il y aurait des gens de gauche au grand cœur ouvert, et puis tout ça. Un peu comme il y avait eu Le vieil homme et l'enfant, hein, de Claude Berry. Voilà, il a ouvert une brèche aussi, pour montrer que le cœur et les idées, c'est pas toujours synchrone, et que là, il y a eu une ouverture. Alors après, il y a eu vraiment dans le réseau, il y avait aussi des gens, la question de l'argent jouait un rôle, il fallait quand même beaucoup
financer
d'argent, il fallait financer, parce que même les gens n'avaient pas de quoi se nourrir eux-mêmes, il fallait des cartes d'alimentation, il ne faut pas oublier, donc c'était pas, il ne suffisait pas d'avoir du cœur, il fallait aussi pouvoir nourrir les enfants, et il y a eu donc ça, et on l'aborde dans, dans le film, hein. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Ça n'enlève rien au mérite des gens. Parce qu'il y a eu aussi des critiques là-dessus, comment ils étaient payés. Mais c'était tout simplement normal qu'il y ait une aide, puisqu'il y avait des institutions qui étaient là pour ça, comme l'œuvre sociale de l'enfance. Et puis, il y a eu des gens qui ont mouillé leur chemise pour ça aussi, des juifs comme... il y avait un personnage extraordinaire, mais qui parlait tellement mal français, mais qui a apporté beaucoup d'argent.
Est-ce que vous parlez de, j'allais vous poser, de David Feldman?
Voilà, pardon, parce qu'on
David. Oui, ouais, parce qu'on en parle plusieurs fois dans le film, et on a envie de voir qui est cet homme qui a l'air d'être une espèce de personnages de cinéma, presque. Hein.
Complètement. C'est comme... oui, c'est vraiment comme Trépère, enfin, des gens extraordinaires comme ça, et qui ont traficoté avec les nazis. Ils ont joué double jeu, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Donc, et ça, je pense que je veux aussi ramener un peu mon père là-dedans, parce que cette ouverture qu'il avait, il m'a toujours dit, attention, il ne faut pas juger les gens par rapport... Il faut regarder qu'est-ce qu'ils ont fait réellement, et pourquoi ils l'ont fait. Et lui, voilà, il a toujours navigué. Alors après, on n'aime pas mettre en avant ce genre de personnage trouble, parce qu'il y a des gens qui ont fait des affaires pendant la guerre. Mais peut-être que par derrière, ils ont fait aussi du bien. Donc, toutes ces choses-là, il a fallu enlever des couches de préjugés pour faire le film.
Il y a quelques témoignages, évidemment, avec ces enfants devenus adultes, dans la deuxième partie du film surtout. Alors, on ne peut pas revenir sur tous les personnages qui apparaissent, mais il y a une jeune femme en particulier, moi, qui m'a particulièrement, on pourrait dire, ému, qui est cette jeune femme qui a des lunettes, qui a l'air totalement, comment dire, encore emprisonnée dans cette période d'une manière très, très douloureuse à l'époque dans le film, donc tournée en 1979, alors que les autres, on sent que quelque chose comme un lien très puissant s'est fait avec leur famille d'adoption et que ça a pu aussi les projeter dans une existence future, alors qu'elles, on sent que c'est plus compliqué.
Alors, la grande question, c'était aussi ceux qui ont retrouvé leurs parents et ceux qui ne les ont pas retrouvés. Les gens qui ont retrouvé leurs parents avaient une solidité beaucoup plus grande. Mais pour nous, c'était très important de montrer justement des orphelins comme Betty, qui avait 3 ans. Donc, pas de mémoire, elle avait des souvenirs très vagues. Et il n'y avait pas de conscience non plus, de prise en compte psychologique après la guerre. Parce qu'on estimait que les gens avaient de la chance. Ils avaient été sauvés, ben, ils avaient de la chance. Et les institutions, la psychologie n'était pas au point à l'époque. Même Ziggy Hirsch, qui est devenu un grand psychiatre, le reconnaît. Lui est un ancien déporté. Mais par rapport aux enfants, il n'y avait pas d'approche vraiment globale pour les mettre sur le chemin, les encadrer, etc. Donc, plus ils étaient jeunes et plus ils ont été marqués, ce qui était le cas de Betty, qui était dans des institutions psychiatriques et puis qui avait réussi, là, quand on l'a filmée, elle travaillait, elle avait un petit boulot dans une maison de retraite. Donc, elle avait réussi à s'insérer. Mais cet aspect, ce bémol, hein, il fallait quand même montrer que ce n'est pas parce qu'ils ont été sauvés qu'ils n'ont pas souffert. Comme Fanny, philosophe, qui a été... c'était une touche importante, hein, de dire que la gratitude, c'est beaucoup demandé à un enfant, d'avoir une gratitude, alors qu'il il s'inquiète pour ses parents,
bien
d'abord.
Sûr. Vous avez tout à l'heure cité plusieurs fois votre père pour dire qu'il avait... vous avez aidé à financer le film, puisque c'est à lui qu'on doit la pellicule qui a servi à enregistrer tous ces témoignages. Vous l'avez cité il y a quelques minutes pour dire que voilà, c'était effectivement difficile de juger en situation les hommes et les femmes qui ont traversé ces événements. Alors, on peut peut-être l'évoquer maintenant directement sur l'autre film qui figurera sur ce DVD à côté de Comme si c'était hier, Récit de Sam, qui est un film beaucoup plus court que le premier, qui est un film d'une heure et demie, qui avait été projeté en salle hein, quand il était sorti, qui est un film beaucoup plus court, qui date de 2009, mais qui utilise des enregistrements que vous avez faits avec votre père, je crois en janvier 89, c'est ça, c'est des...
Ouais.
Alors, question toute bête, qu'est-ce qui fait que, on pourrait dire, je fais un, 20 ans après ces enregistrements, vous décidez de faire ce film. Pourquoi il a fallu attendre 20 ans pour que vous utilisiez ces enregistrements ?
Pour moi, c'était un enregistrement de famille, pour moi. C'était un témoignage, quelque chose que je voulais garder. Et puis, je ne pouvais pas regarder. Et même chose pour ma mère. J'ai fait un film sur ma mère. Et ma mère, je l'ai enregistré justement.
Les deux vies d'Eva, donc, qui voilà. Fera l'objet d'un autre DVD.
Tout à fait, voilà. Mais disons, ce travail sur ma famille, il est né de ce premier travail parce que mes parents ont vu que je m'intéressais à l'histoire, ça les a beaucoup touchés. Mais si je me suis intéressée à l'histoire, c'était aussi parce qu'elle faisait contrepoids avec tout ce dont j'avais hérité et d'avoir une histoire positive. Pour moi, c'était quelque chose de fantastique. Donc, ma mère, elle a eu envie de me parler. En 78, j'étais en train de faire le film. Eh bien, le film, je l'ai fait 25 ans plus tard. Donc, il y a des choses qui sont tellement à vif ou tellement sensibles qu'on les prend pour les garder. Et puis, on fait ce qu'on peut après. Mmh. Voilà. Moi, ça m'a mis longtemps de pouvoir regarder, décrypter, noter.
C'est-à-dire que pendant 20 ans, vous aviez ces enregistrements par devers vous, mais vous ne les aviez pas consultés ?
Pas du tout.
Pendant 20... Donc vous... Alors racontez-nous, qu'est-ce que ça a fait de les découvrir, en vérité, 20 ans après ? Et votre père était mort 20...
oui.
Peu après les enregistrements, si j'ai bien compris.
Mon père est mort un mois après.
Après
donc,
les enregistrements.
Il y avait une espèce de... Je ne savais pas qu'il allait mourir si
sûr.
Vite. Mais enfin, je veux dire, il était quand même atteint d'un cancer.
Donc ça a une valeur testimoniale ou testamentaire, je veux dire.
Oui, oui. Bon, et pour moi, c'était un travail d'amateur. J'étais pas très fière de ça, j'ai acheté une caméra, je savais pas l'utiliser. C'était vraiment comme on enregistre, on capte pour retenir.
Comme on enregistre aujourd'hui, on enregistrera aujourd'hui avec son téléphone, voilà.
Ouais, c'était exactement ça. Donc, il y avait aucune intention, vraiment autre que de garder une trace et de pouvoir réfléchir plus tard. Pour ma mère, c'était comme ça, parce que, bon, ma mère, c'était autre chose. Ma mère a eu des désordres psychiques, donc, effectivement, quand j'ai réécouté sa voix 25 ans après, j'ai vu qu'il y avait une pensée, et que c'était une pensée dérangeante, mais une pensée, et que c'était articulé, et que, voilà, il y avait énormément de choses qui ont servi de trame, d'ailleurs, ensuite. À mon film. Mais pour mon père, je pense que c'était beaucoup plus... j'étais beaucoup plus proche d'une certaine manière parce que, évidemment, c'est plus facile et c'est plus... c'est douloureux, mais le partage de la douleur a aussi une charge émotionnelle très forte. Donc, avec mon père, j'ai toujours partagé le deuil de sa mère qui a été fusillée en 40 par les nazis à Varsovie. Et sa survie, je la connaissais, son histoire. J'avais la même... Il a écrit un livre, donc je l'avais un peu avec Patrick Girard. Il s'est voulu historien, donc il y avait un rapport. Mais la question, c'était toujours, j'avais le sentiment qu'il était, enfin, qu'il y avait une espèce de culpabilité du survivant, quelque chose comme ça. Et que je me disais, mais j'aimerais tellement le soulager de quelque chose, évidemment, mission impossible, mais voilà, c'était ma motivation.
Oui, parce que, en plus, là, je pense qu'il vous. Il déjoue votre attente parce qu'il dit je n'ai pas envie de pleurnicher. Enfin, il veut pas se penser comme une victime en gros.
Voilà.
Je n'ai pas envie de pleurnicher. Je me sens être très fort moralement. Il dit tout ce genre de choses. Évidemment, il minimise pas du tout. Il fait pas le fier à bras particulièrement. C'est pas ça du tout qu'il faut dire. Mais il est hors de question pour lui de se subjectiviser. On pourrait dire comme une victime. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Moi, malheureusement, on peut pas en dire. Mais je voudrais avoir votre avis sur la dernière phrase du film. Sur la. D'abord, je voudrais dire que c'est assez beau là, la manière avec laquelle vous avez exploité des rushs qui sont probablement tournés dans une qualité moyenne. Mais c'est comme une image qui flotte à l'intérieur du cadre et qui est vraiment comme une image spectrale où un fantôme revient. Vous parlez à 25 ans de distance et on ressent vraiment cet aspect spectral en voyant le film. Et ça se finit Oui, par une phrase étrange, par quelque chose d'étrange, je trouve. Il dit, voilà, il y aurait un problème sociologique. Il parle de problème sociologique qu'il faudrait fouiller. Alors, je ne sais pas si c'est un problème qui a proprement parlé sociologique, mais peu importe. En tout cas, il y a un problème à fouiller selon lui. Et il se pose la question, est-ce qu'il y a à tirer une leçon de la vie exceptionnelle? Alors, il veut dire extrême, dans des conditions extrêmes, hein, mais je le cite littéralement. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer de la vie exceptionnelle dans un camp d'extermination pour les Juifs? Est-ce que ça servirait à quelque chose? Et il dit, est-ce qu'il y a une leçon à tirer tout ça, et puis il dit je me le demande, et sous-entendu
il
n'y
en a pas.
Il y en a pas.
Je
là il y a quelque chose comme un pessimisme fondamental, il me semble.
Oui, mais parce que je crois que je crois qu'il Marceline Loridan aurait dit la même chose. Quelle leçon à tirer des camps? Il n'y a pas de leçon. Enfin, ni c'était pas des lieux de formation, ni intellectuels, ni émotionnels. Et voilà. Donc, mon père n'a pas été à Auschwitz. Hein, il était à Poniatowa, dans le ghetto, etc. Mais sa trajectoire de vie. Donc, j'ai trouvé que c'était important de terminer par cette.
Non, je trouve. Ce qui me frappe. Oui. Malheureusement, on doit arrêter. L'émission, mais ce qui me frappe, il y a quelque chose dans le témoignage de votre père où il y a une très puissante lucidité et parfois quelque chose comme une naïveté. À un moment donné, il dit, si je parlais à quelqu'un, je voudrais lui faire comprendre qu'il commettait un crime contre ma personne.
Alors, un Allemand.
Un Allemand. Donc,
mais ça, c'est très important.
Oui, mais c'est très important. Mais c'est une idée folle quand on y pense. On imagine un juif en 1942 allant voir un SS pour essayer de lui faire comprendre qu'il commettrait un crime contre lui. Il y a quelque chose d'incroyable dans l'image qu'il propose à ce moment-là.
Donc, se sauver, c'est se sauver tout seul. Et donc, exister en tant qu'individu. Et il s'est comporté comme un individu, essayant de trouver le point d'humanité qu'il pouvait y avoir chez l'autre. Bon, il n'a pas toujours réussi, mais il s'est dit, il y a quand même quelque chose. Donc il y a un optimisme aussi là-dedans.
Bon, je laisse la question ouverte malheureusement. Je vous remercie beaucoup Esther Offenberg. Alors, j'annonce aux auditeurs que le DVD sortira après l'été, à une date indéterminée encore, mais probablement en septembre-octobre, novembre. Je crois que ça a été retardé évidemment à cause des événements récents. Je vous remercie encore. Donc, je rappelle les titres des films, Comme si c'était hier, Récit au pluriel de Sam, c'était Mémoire vivre, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevivreaupluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.